Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tours et l'émission ABC des legs. Pour cette émission du mois d'août, nous vous proposons d'écouter la cinquième et dernière table ronde enregistrée lors de la Vegan Place de Tours le samedi 17 juin dernier. Le thème de cette table ronde était « Crise écologique, l'indispensable végétalisation de notre alimentation ». Nous nous sommes demandé en quoi la crise climatique et celle de la biodiversité nous imposent de transformer notre modèle alimentaire et en quoi l'alimentation végétale peut y répondre. Nous avons aussi parlé de l'alimentation végétale en elle-même, ses propositions et ses évolutions. Alors pour aborder ces questions, nous avions reçu Élodie Vieille-Blanchard, présidente de l'ABF, l'Association végétarienne de France, qui a publié en 2018 le livre « Révolution végane, inventer un autre monde » aux éditions d'UNO. Nous avions aussi reçu Juliette Drault, chef de l'instant à Tours, qui a remporté en 2021 le premier concours de pâtisserie végétale à Chambéry, et Frédéric Zegierman, qui avec Lena Korobova anime le site internet France Végétalienne, qui propose de nombreuses adaptations végétaliennes de recettes françaises et du monde. On retrouve un grand nombre de recettes végétaliennes de spécialités régionales françaises dans leur livre éponyme « La France végétalienne » paru en 2017 aux éditions L'Âge d'Or.
Et donc pour apprendre à un peu mieux vous connaître, on a donc autour de la table des végétariens, des végétariennes, des végétaliens, des végétaliennes. Donc chacun votre tour, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez commencé à végétaliser votre alimentation jusqu'à aujourd'hui par exemple ? Alors faites court tout de même, on vous écoute.
Bonjour, alors moi en fait j'ai commencé en étant végétarienne pendant quelques mois. Et rapidement, au début c'était plus pour des questions écologiques, et en fait rapidement j'ai découvert un peu voilà, ce qui se passait dans les abattoirs, dans les élevages, etc. Et donc en quelques mois j'ai décidé de devenir végétalienne, et ça n'a pas été trop compliqué. Alors c'était voilà, comme beaucoup de gens, le fromage c'était le truc que je pensais pas réussir à arrêter, et après voilà, en voyant la réalité de ce qu'il y avait derrière les produits laitiers, le fromage, en fait, c'est tellement horrible qu'il y a un truc qui fait qu'on a envie d'arrêter quand même. Et après, en fait, ça s'est fait assez naturellement en termes de, voilà, d'équilibre alimentaire ou autre, en tout le temps en me disant, bah voilà, si je mange de tout dans toutes les sources de végétaux, en fait, l'équilibre se fait assez naturellement. Pour moi, ça n'a pas été trop compliqué. Et après, ce qui était plus compliqué, parce que c'était en 2014-2015, il n'y avait encore pas trop de choses développées en termes de choses végétales. Donc, faut vraiment beaucoup cuisiner soi-même. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se développent. Mais voilà, c'était le fait de beaucoup se mettre à beaucoup cuisiner. Mais moi, en fait, ça m'a plu tout de suite. Et c'est aussi pour ça que j'ai bifurqué vers le fait de faire de la pâtisserie végétale. Et ce qui m'a amené à changer aussi, à faire une reconversion professionnelle en fait.
Alors moi j'ai développé une amitié avec des petits animaux qui étaient des lapins quand j'étais adolescente, des animaux qu'on a eu à la maison, donc ça m'a ouvert déjà à la sensibilité des lapins, et ça a commencé à créer une espèce de fissure dans mon carnisme, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les animaux auxquels j'étais attachée, j'avais pas envie de les manger. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à me poser des questions. En fait, j'ai eu une espèce d'empathie qui s'élargissait. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc j'ai arrêté de manger les bébés d'animaux, puis les mammifères, puis les animaux terrestres, puis les poissons. Pendant longtemps, je ne savais même pas ce que c'était que le véganisme. En fait, j'ai appris ça quand je suis devenue étudiante. Et ça me semblait très étrange, vraiment presque extrême, en fait, quand on m'a parlé du véganisme. C'est une camarade de cité universitaire américaine, il y a une vingtaine d'années, qui m'a parlé du véganisme en me disant « Mais tu es végétarienne, tu n'es quand même pas végane ?» J'ai dit « Ah non, surtout pas !» Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des véganes, je me suis un petit peu intéressée à ce qui se passait pour qu'on ait du fromage dans nos assiettes ou des œufs. Et puis en fait, petit à petit, voilà, j'ai cheminé, un peu comme tout le monde, je pense, avec... certaines contradictions, et puis des avancées, des retours en arrière. Et puis aujourd'hui, je suis végane depuis une dizaine d'années.
Bonjour. Donc moi, j'étais comme tout le monde, omnivore au départ. et puis j'avais rencontré un prof qui était végétarien. En allant à la fac, j'ai tenté l'aventure. Grande surprise, non seulement ça me plaisait beaucoup, mais en plus les maux d'estomac qu'on pouvait avoir, les mauvais sommeils, tout s'est mis à s'envoler d'un seul coup. Parallèlement, j'avais hérité d'un chat et j'ai très vite compris que il respirait comme nous, il dormait comme nous, il faisait des rêves, il nous aimait et qu'en plus on les mangeait. Pas forcément en France les chats, mais enfin bon, tous les animaux. Donc peu à peu, je suis devenu végétarien, je me suis régalé. Et puis, un jour, j'ai fait le grand bond vers le végétalisme et la grande surprise, non seulement c'était extraordinaire au niveau des goûts, on retrouvait certains goûts, on allait encore mieux physiologiquement, on s'était rendu compte depuis longtemps que être végétarien, ça ne suffisait pas, puisque on sait très bien que pour obtenir du lait, il faut de la viande, et pour obtenir de la viande, il faut du lait. Donc finalement, on s'était endormi, je parle pour moi, dans l'idée qu'en étant végétarien, on œuvrait beaucoup pour la planète, mais en fait, pas du tout. Et on a lancé ce site avec mon associée Léna, il y a une petite dizaine d'années, qui, au miracle, a très bien marché. Beaucoup de gens nous connaissent ici, c'est pour ça qu'on est venu. Qui s'est donné pour mission de végétaliser l'ensemble du patrimoine gastronomique français, parce que les Français, il faut le savoir, sont quand même vraiment les parents pauvres en Europe. Pour ceux qui ont un peu voyagé, hein, on le sait bien. On est à peine 1% de végétaliens en France, quand en Allemagne, vous êtes 7%, en Angleterre, vous êtes 7%. Ou 6%. En Californie, j'ai une de mes filles en Californie, ils sont 7%. Derrière tout ça, en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un magnifique patrimoine gastronomique avec des savoir-faire ancestraux extraordinaires et que finalement, on risque d'être dépassé par des gastronomies, je ne dis pas inférieures, mais qui n'ont pas cette richesse, cette densité. C'est pour ça qu'on a fait ce site, pour permettre aux gens de garder finalement leurs habitudes alimentaires tout en les végétalisant. Voilà.
Alors, je me tourne vers toi, Elodie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le modèle alimentaire qui domine actuellement et qui est basé en grande partie sur la consommation d'animaux et de sous-produits animaux n'est pas soutenable d'un point de vue écologique dans le contexte des crises actuelles, à la fois la crise climatique, mais aussi celle de la biodiversité?
Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que la manière dont on se nourrit en Occident actuellement, c'est une exception historique. Déjà, on est de plus en plus nombreux, mais en fait, on mange beaucoup plus de viande qu'à n'importe quel moment dans l'histoire. En fait, à l'échelle de la planète, on consomme 5 fois plus de viande qu'il y a 60 ans, et à l'échelle individuelle, 2 fois plus. Donc on a vraiment des courbes qui sont pratiquement exponentielles, en tout cas avec une croissance très forte. Et ça, ça se fait au détriment, bien sûr, des écosystèmes de la planète. L'élevage, directement ou indirectement, c'est 3 quarts ou 4 cinquièmes des surfaces agricoles de la Terre. Donc ça veut dire que pour élever tous ces animaux, pour produire la nourriture de tous ces animaux, en fait, on a par exemple déforesté, on a transformé énormément de sols. Donc ça, c'est pour vraiment la partie surface agricole, biodiversité. Pour la partie climat, en fait, c'est la même chose. On ignore souvent que le facteur principal, en fait, si on veut réduire l'empreinte climatique de son alimentation, c'est le facteur végétal. C'est-à-dire que si vous mangez bio, ça augmente un petit peu l'empreinte climatique de votre alimentation si vous mangez la même chose. Si vous mangez local, c'est bien, quoi, mais c'est vraiment à la marge, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc ça, c'est les deux éléments principaux. Après, il y a tout ce qui concerne les pollutions locales. En fait, on est vraiment dans une espèce de fuite en avant où pour manger des tacos, des burgers, enfin du jambon industriel, on a complètement modifié la surface de la Terre. On a industrialisé l'élevage énormément. Enfin voilà, je pense que si on est là, c'est qu'on le sait très bien. Et donc, ne prenons que, par exemple, le problème de la crise climatique. En France, on émet à peu près 12 tonnes de gaz à effet de serre par personne et par an. Il faudrait qu'on soit à 2 tonnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diviser par 6. Comment vous pouvez diviser par 6? Vous pouvez changer drastiquement vos déplacements, votre mode d'alimentation, votre consommation. Mais en fait, l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui est déterminant. Et donc, c'est quelque chose qu'on oublie souvent aussi. Et ce qu'il faut comprendre, et que je trouve super intéressant quand on est engagé pour le végétarisme et le véganisme, c'est qu'en fait, changer d'alimentation, ça a plein de bénéfices. C'est-à-dire qu'à la fois, on agit pour la biodiversité, on agit bien sûr pour la condition animale. je veux dire, on rend les animaux quand même misérables, en fait, pour assouvir voilà, certains désirs ou pour répondre à certaines habitudes alimentaires. Nous-mêmes, en fait, on contribue à notre propre mauvaise santé. On a des éleveurs qui sont dans des états souvent désespérés, en fait, qui ne gagnent pas leur vie. Et donc, il y a une transition qui est à la fois indispensable, mais qui est aussi éminemment souhaitable. Et toute notre difficulté, en fait, c'est qu'on se bat contre actuellement un gouvernement qui va complètement à contresens de l'intérêt général. Et ça, c'est très compliqué.
Très bien, merci. Donc, tu as dressé un portrait plutôt complet des conséquences du système actuel. On se retrouve pour une table ronde qui parle de la végétalisation de notre alimentation. Donc, à l'inverse, si on se projette dans une végétalisation de l'alimentation à grande échelle, quelles seraient les conséquences sur le climat et la biodiversité de grandement cesser de manger des animaux et cesser d'en élever?
Sur la biodiversité, en fait, ça permettrait un réensauvagement massif de la planète. Voilà, c'est, en fait, je crois que dans une méta-étude qu'on cite souvent, on dit que l'élevage, c'est 18%, enfin, les produits animaux, c'est 18% des calories qu'on ingère sur Terre, mais c'est 83% des surfaces agricoles. Donc, on comprend tout de suite qu'en fait, avec ces surfaces récupérées, bah, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on peut faire repousser des forêts, enfin, on peut recréer vraiment des écosystèmes. Dans les études scientifiques, quand on retire l'élevage, à la fois on retire les émissions de gaz à effet de serre qui correspondent, mais on crée aussi des puits de carbone. Donc ça veut dire qu'on pourrait diminuer à peu près les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité en général d'un quart si on renonçait à l'élevage, et de 20% si on divisait tout simplement par deux notre consommation de produits animaux à l'échelle de la Terre. Je trouve que ça, en situation d'urgence climatique, c'est quand même... quand même des chiffres qui devraient absolument attirer l'attention de tous les dirigeants. Malheureusement, ça n'est pas du tout le cas.
Vous voulez peut-être intervenir par rapport à ces questions-là, Juliette ou Frédéric?
Bon, on peut donner quelques chiffres qui vont faire encore plus réagir peut-être. Tu parlais tout à l'heure de 4/5 des surfaces. En fait, c'est 83%, tu l'as dit, donc c'est quand même effrayant. C'est bien sûr tous les entrants, ce qu'on appelle les entrants, les pesticides aussi, pour... faire venir toute cette matière donnée aux animaux. Donc c'est assez catastrophique. Mais je voudrais revenir plutôt sur la consommation alimentaire en France, moi, que je connais bien. Il faut savoir que dans les années 2010, on a atteint un seuil assez hallucinant. On est passé à plus de 110 kg de consommation de viande par habitant en France. 110 kg, ça veut dire de la viande rouge, de la viande blanche, de la charcuterie, du poisson. Bien entendu, ce qu'on oublie, La gélatine omniprésente sur vos pâtisseries. Vos pâtisseries sont bien brillantes à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, elles sont plus durcies par la gélatine. Tous les bonbons qu'on donne aux enfants, c'est de la gélatine. 110 kilos. Aujourd'hui, on serait plutôt vers les 80, et tu faisais allusion au fait qu'effectivement, on espère descendre vers les 50-60 kilos, sachant que, quand je dis 50 kilos, certains vont en manger 300 kilos par an, et d'autres 10 kilos. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1830, sous la Restauration, donc, on estime que la consommation alimentaire en France de viande était de 25 kilos. Donc on imagine, alors ce grand bond s'est produit dans les 30 Glorieuses, hein, après la dernière guerre mondiale, où on s'est mis à surconsommer de la viande. C'est un phénomène qui avait commencé au milieu du 19e siècle dans la bourgeoisie. On s'était mis à faire des plats viandeux, mais allez vous promener en province, dans la province profonde, moi je suis vers l'Ardèche, ils vous diront que naguère, leurs grands-parents mangeaient une fois par mois de la viande. Donc on est passé dans un truc de fou. Et ce qu'on appelle le plat du pauvre aujourd'hui, d'accord, le plat du pauvre, mais à l'époque, ce plat du pauvre sans viande, c'était pas les mêmes légumes, il n'y avait pas de pesticides. Goûter une vraie pomme avec une pomme, bon, je vais pas vous donner une enseigne, mais un hypermarché, c'est de l'eau. Manger une vraie pomme, vous comprenez? Donc on est parti dans ce délire total vers la viande, et on essaye de revenir à la raison, et nous on s'efforce de faire revenir les gens à la raison, quoi. On peut au moins mangeons-en moins déjà, on verra après.
Mais la tendance alors n'est pas du tout au ralentissement
Si on est au ralentissement, mais malheureusement, si, mais par la force des choses, c'est-à-dire que oui, un ralentissement insuffisant, bien entendu. Un ralentissement qui est lié aussi au pouvoir d'achat qui se réduit.
En fait, il y a une étude qui a été publiée en mars, qui était fondée sur les bilans d'approvisionnement du ministère de l'Agriculture, qui montre qu'en fait, malheureusement, contrairement aux enquêtes d'opinion qui laissent croire que ça diminue, en fait, la consommation de viande réaugmente en France depuis à peu près 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, on est au-dessus de la consommation de viande d'il y a 10 ans. Voilà, ça a augmenté, je crois, de 3%, quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui nous interpelle énormément, parce qu'en fait, je pense que comme beaucoup de gens, on était convaincus qu'avec les enquêtes de L214, avec tout ce qu'on a entendu sur l'impact climatique de l'alimentation, avec tous les rapports sur la santé, les gens avaient changé d'alimentation. En fait, ça n'est malheureusement pas le cas. Donc ça n'est pas le cas à l'échelle mondiale, ça n'est pas le cas à l'échelle française. C'est le cas dans certains pays européens, par exemple en Allemagne, mais sur le territoire français, ça n'est pas le cas.
C'est pas tellement, en fait, finalement, notre problème en Europe qui pose vraiment la question, c'est tous les pays émergents qui se mettent à surmanger de la viande, notamment en Chine, ça devient dingue. Ils suivent le même chemin que nous, quoi. Alors nous, on stagne, nous, on baisse, ou on augmente légèrement de 3%, peu importe. Mais alors, par contre, tous ces pays-là qui représentent des milliards de personnes se mettent à manger beaucoup de viande. Alors là, il y a des questions à se poser, voilà.
Élodie, qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui prônent en fait une transition de l'élevage intensif vers l'élevage extensif pour répondre à la crise climatique ? Parce que certains, c'est ce qu'ils mettent un peu en avant, peut-être en expliquant ce qu'est l'élevage extensif aux auditeurs et auditrices.
Oui, je pense que ils et elles connaissent bien, mais l'élevage intensif, en gros, c'est des animaux qui sont concentrés dans des élevages. L'élevage extensif, c'est plutôt l'élevage de plein air, ça concerne plutôt les bovins et les ovins. En fait, j'ai envie de dire que si c'était une réalité, ça irait dans la bonne direction. Enfin, nous, on s'appuie souvent sur des scénarios de transition agricole, notamment le scénario AFTER, le scénario TIFA, qui revendique de diviser par deux le cheptel, en fait, que ce soit, enfin, l'ensemble des cheptels, on va dire, et donc les consommations animales des Français ou des Européens. Donc ça irait avec une désindustrialisation qui serait en fait une bonne nouvelle, voilà. Donc on ne défend pas spécialement l'élevage extensif non plus, enfin voilà, je vais être claire là-dessus, mais il faut bien commencer par quelque chose. Ce ne serait pas catastrophique si on allait dans cette direction. Le problème, c'est qu'on va nulle part, en fait. C'est-à-dire que cet élevage extensif, souvent, on a publié un communiqué là-dessus qui disait, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt de l'élevage intensif. C'est-à-dire que les gens savent que quelque part, il y a quelqu'un qui a des vaches, et les vaches, elles ont de l'espace, elles sont heureuses. Et bien, du coup, ça légitime, en fait, une consommation de viande qui n'est pas du tout durable, qui est très massive, qui concerne des animaux qui sont pas du tout en élevage extensif. Donc, en fait, c'est ça le problème principal. Et en fait, souvent, on a l'impression, voilà, que cet élevage extensif, il sert de caution à des pratiques qui sont pas durables du tout, pas du tout éthiques, bien sûr. Et en fait, si vous regardez, par exemple, des émissions de télé où on invite des éleveurs, est-ce qu'on va inviter une éleveuse d'une porcherie industrielle ? Ben non, bien sûr, jamais. Mais vous allez avoir le paysan qui vous dit qu'il a 20 vaches et il les aime beaucoup et il les connaît bien, elles sont dehors, elles mangent de la bonne herbe. Et en fait, c'est ça tout le problème. Le cheptel bovin, je crois que ça correspond à peu près à 1/1000 en fait, des animaux qui sont élevés et mis à mort en France chaque année. Donc c'est une vision complètement déformée de la réalité.
J'ai encore une question pour Élodie. Dans votre livre Révolution végétale, vous imaginez un monde complètement vegan. Que répondez-vous à celles et ceux qui pensent qu'une alimentation 100% végétale n'est pas possible, qu'il y a inévitablement besoin d'intrants animaux ?
Donc là, je pense qu'on peut parler d'agriculture végane, voilà, parce qu'en fait, bon, c'est un ouvrage donc, qui s'appelle Révolution végane, dans lequel j'ai essayé d'examiner ce que pourrait être un monde où on arrêterait d'exploiter les animaux. L'obstacle principal, c'est la culture, c'est les habitudes. Et pour ce qui est en fait des pratiques de culture agricole, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire par exemple de la polyculture élevage. En fait, ça permet de récupérer la fertilité de certains sols pour la mettre ailleurs. En gros, les animaux, ils consomment des plantes qui contiennent de l'azote, ils font des déjections, on récupère les déjections, on les met par exemple dans des champs de maraîchage, et donc ça permet de les fertiliser. Il y a d'autres techniques qui existent tout simplement. Je vous invite à venir sur le stand de l'AVF éventuellement. Je pense qu'on doit avoir un numéro de notre magazine Virage consacré à l'agriculture végane. En tout cas, c'est un vrai sujet pour pouvoir montrer que là aussi, en fait, on a des habitudes, on a des réflexes. Mais ce n'est pas du tout une fatalité, en fait, d'utiliser les animaux pour enrichir, pour avoir de la fertilité, tout simplement.
Juliette et Frédéric, comment voyez-vous, à partir de votre activité, l'évolution ces dernières années de la place de l'alimentation végétale et de la manière dont elle est perçue par le grand public?
Alors moi, en fait, ça fait plusieurs années que je suis dans ce métier-là, et ça fait 3 ans que je suis au Salon Thé l'Instant à Tours. En fait, je vois vraiment qu'il y a une évolution, même si elle est quand même lente. Il y a du salé et du sucré, mais ma spécialité, c'est vraiment le sucré et la pâtisserie. Donc en fait, je trouve que quand on devient végétarien ou végétalien, en fait, quand on change pour les plats salés, alors maintenant il y a plein de choses qui peuvent vraiment faire simili-viande ou simili-poisson, etc., ou même pour les œufs, mais il faut vraiment se passer de la viande ou du poisson. Si on aimait manger tel poisson, si on est végétalien, on n'en mange plus. En pâtisserie, c'est un peu différent parce qu'en fait, on peut remanger quasiment la même chose, juste les ingrédients ne sont pas les mêmes, mais si on aimait les forêts noires avant, on peut remanger une forêt noire, il n'y a pas le même truc de privation. À la fois, ça paraît plus compliqué parce qu'on a l'impression que c'est pas possible de faire une forêt noire ou une tropézienne en version vegan. En fait, c'est tout à fait possible. Et du coup, il y a moins le côté privation parce qu'une fois que les gens ont compris qu'en fait, s'ils adoraient manger telle chose, ils peuvent exactement manger la même chose en version vegan. Finalement, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc ce truc-là, je trouve, entre le sucré et le salé, est assez intéressant à constater. Et du coup, moi, j'ai des échanges avec les clients pour le sucré et pour le salé. Je vois une évolution vraiment parce que les gens, de plus en plus, souvent me disent qu'ils veulent réduire leur consommation de produits animaux. Il y a toute cette problématique liée à l'écologie, au bien-être animal. Après, je vois que c'est très progressif et très lent, dans le sens où souvent, un peu ce dont on parlait tout à l'heure sur les petits élevages, etc., c'est vrai que ça revient souvent. Alors, soit les gens savent pas trop pourquoi pas d'œufs, pourquoi pas de produits laitiers. Donc ça, en général, je leur explique. Et les gens, des fois, n'ont pas conscience que pour avoir du lait, faut qu'il y ait une vache qui ait eu un petit veau, et que le veau, en général, on l'emmène à l'abattoir. Et voilà, et c'est tous les ans la même chose pour la vache. Et que la vache, elle va partir à l'abattoir à 7 ans, alors qu'elle pourrait en vivre 18. Ça, les gens, souvent, ils en ont pas conscience. Donc, c'est un travail qu'on fait aussi parce qu'il y a un travail de sensibilisation. C'est pas comme ne pas manger l'animal. Quand on est végétarien, on se dit on mange plus l'animal qui est mort. Mais quand c'est les œufs, les produits laitiers, il y a encore ce truc de pas trop comprendre des fois pourquoi c'est problématique les œufs. C'est la même chose pour les poules. Bien sûr que manger des œufs, ça tue des poules, mais des fois cette chose-là n'est pas encore bien comprise. Donc il y a tout ce travail-là aussi de vraiment expliquer que oui, les œufs et les produits laitiers, c'est pareil. En fait, là je parle plus d'un point de vue bien-être animal, mais qui de toute façon fait partie de l'écologie aussi. Oui, c'est très problématique aussi, et ça tue autant d'animaux également. Donc il y a ce truc-là qui n'est pas encore toujours bien compris par les gens. Et après, il y a aussi beaucoup ce qui revient, le fait de dire j'en mange moins, je réduis, mais c'est que des petits élevages, etc. Et comme on disait tout à l'heure, les petits élevages, oui, il peut y en avoir, mais si on compte tous les gens qui disent je mange de la viande des petits élevages, en fait, ça colle pas avec les petits élevages qui existent réellement en France. Il y a un problème, on ne sait pas où sont les animaux de ces petits élevages. Donc je vois bien l'évolution, c'est encore lent. Après, ce que je constate aussi par rapport, c'est plus par rapport aux produits laitiers et aux œufs, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques ou intolérants. Et du coup, à la base, c'est pas un changement lié à l'écologie, mais alors c'est peut-être un malheur pour quelque chose de bien, mais du coup, les gens, ils sont obligés de se dire je digère plus, je peux plus manger les œufs, je peux plus manger les produits laitiers, comment je vais faire? Et en fait, moi, j'ai plein de clients qui au départ viennent à l'instant parce qu'ils ne peuvent plus digérer les gâteaux classiques. Et eux, ils viennent pas du tout à la base, c'est plus pour le côté santé ou allergie. Et en fait, ils rentrent dans cet univers-là, et nous, derrière, on leur explique aussi, finalement, si vous avez des gâteaux que vous pouvez manger, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, je veux faire des gâteaux sans qu'il y ait de souffrance animale. Et c'est parce que des gens ont eu cette considération pour la souffrance animale que finalement, ça sert d'autres humains aussi. Et finalement, les gens qui sont allergiques aux œufs et aux produits laitiers, ils sont super contents que, à un moment donné, des gens se soient dit, je vais faire des gâteaux sans souffrance animale. Et ça les fait évoluer un petit peu aussi, parce que finalement, ils s'ouvrent à d'autres choses dont ils n'avaient pas du tout conscience, tout ce qui est lié à l'élevage et à la souffrance animale dans la filière laitière ou la filière des œufs.
Bah moi, je corrobore un peu ce que tu viens de dire. Nous, on a un site qui nous permet de voir un petit peu l'évolution. On a un site, on va dire, qui tournait à 100 000 personnes par mois environ d'audience et qui, lors du Covid, à notre grande surprise, parce que en fait, nous, on considère que ça évolue, bien sûr, mais horriblement doucement, affreusement doucement, anormalement doucement. Et lors de cette crise du Covid, alors là, d'un seul coup, ça s'est mis à bondir à 300 000 personnes. Ça prouve bien que les gens, quand ils sont inquiets, ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils ne devraient pas faire. Donc il y a quand même une conscience sous-jacente, mais malheureusement, tant qu'on n'est pas dans le mur, bah, on continue à agir mollement pour les animaux, pour la planète. Donc l'évolution, elle y est, mais tellement lentement que... Voilà, nous on grogne, mais on continue, voilà.
Élodie, tu voulais intervenir aussi sur l'évolution de la perception de l'alimentation végétale ?
Bah, je pense que c'est une perception qui a très clairement évolué. Enfin, je veux dire, dans les 10 dernières années, déjà le véganisme, c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement étrange, de dangereux. Je pense que c'est plus le cas. Le stéréotype qui est associé, c'est plutôt que c'est quelque chose de bobo, et c'est quand même un peu une réalité, c'est-à-dire qu'on... On change d'alimentation quand on a fait des études, quand on a du temps pour réfléchir, quand on a un petit peu de moyens. Mais en tout cas, voilà, le stigmate n'est plus le même. Donc les végés, les véganes, c'est plus des marginaux, c'est plutôt des gens un peu branchés, voilà. Mais c'est un stigmate qui est pas facile non plus, en fait, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quand même les gens les plus modestes qui mangent le plus de viande. Et en fait, nous, on se rend compte que bah, souvent, on parle à des gens qui nous ressemblent, qui mangent déjà un petit peu comme nous. Quand on donne des cours de cuisine à l'AVF, par exemple, bah, c'est pas n'importe quel public qui est touché par nos cours de cuisine. Donc ça, c'est une vraie question, en fait. Donc à l'AVF, on a un magazine qui s'appelle Virage. Et en fait, notre prochain numéro sera sur la solidarité. Et le titre, ce sera « Manger végé pour tous manger ». Et en fait, on se pose beaucoup de questions, et en particulier, bah, comment toucher les catégories qui sont les plus éloignées de nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on réponde à cette question, en fait. Parce que tant qu'on reste entre nous et qu'on est content de bien manger, mais que la plus grande partie de la population, bah, déjà qui a du mal à joindre les deux bouts, est très très éloignée de nos considérations, bah, en fait, on va tout simplement pas y arriver.
Eh bien, je vais me permettre de poser cette question. Comment on fait progresser l'alimentation végétale ? Comment on étend cette alimentation aux personnes les plus éloignées de ce mode de vie ? Et comment on touche finalement le plus grand nombre ? Est-ce qu'il y a des solutions, des hypothèses de solutions à cette question ?
Alors hier soir, j'ai participé à un festival à Paris qui s'appelle le Festival du Mieux Manger, en fait avec un élu du Parti Animaliste. On a donné une conférence sur ces questions-là. Et en fait, on était tous hyper perplexes. Et notamment ce rapport qui est sorti en mars qui montre que la consommation de viande ne baisse pas en France, ça nous a tous laissés complètement scotchés. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est pas possible, voilà, on a tous changé, on est tous conscients, mais en fait, non. Donc on s'est posé beaucoup de questions, en fait. Voilà. Donc il y a la piste des politiques publiques. Bon, c'est très bien, la piste des politiques publiques, c'est notamment les cantines. Mais en fait, c'est très peu de repas en France. Finalement, c'est une toute petite fraction. La restauration collective, public, je crois que c'est 5% des repas en France, donc c'est pas beaucoup. Il y a la question, bah, bien sûr, du rôle du secteur économique. Je pense que le secteur économique fait beaucoup pour développer des nouvelles gammes, des nouveaux produits. Mais après, on se rend compte que c'est toujours une culture. Voilà, c'est toujours une culture à changer. Et après, moi, ce qui m'interroge, mais c'est plus globalement aussi pour ce qui concerne nos comportements et les rapports à l'impact écologique de nos comportements, j'ai l'impression qu'on va toujours vers le plus, en fait. On va toujours vers des comportements qui sont plus polluants, plus destructeurs. Et est-ce qu'il y a un moment donné où on peut revenir en arrière ? Est-ce qu'on pourrait moins voyager ? Est-ce qu'on pourrait moins consommer ? Moins aller sur Internet ? Moins manger de viande ? Honnêtement, je n'en sais rien. Donc c'est certain que mettre en avant le côté désirable, avoir des produits qui font plaisir, qui donnent envie, enfin je pense que c'est bien qu'on ait cette discussion aussi avec Juliette et Frédéric, ça semble quelque chose de très important aujourd'hui.
Frédéric, Juliette, vous vouliez intervenir sur les leviers là qui permettraient de faire progresser l'alimentation végétale ?
Moi, en fait, ce que je constate vraiment, c'est que souvent la barrière qui fait que les gens ne sautent pas le pas du végétarisme ou végétalisme, c'est vraiment le fait que les personnes ne connaissent pas cette cuisine-là et donc ont vraiment l'impression que ça va être de la privation, qu'ils ne vont pas se régaler, etc. Et en fait, vraiment, enfin, alors, que ce soit en salé ou en sucré, je le vois encore plus en sucré avec les pâtisseries qu'on fait à l'instant, c'est que les gens, s'ils se régalent, en fait, cette barrière-là, elle saute tout de suite, et finalement, manger un gâteau qui est tout aussi bon qu'un autre, et ils ne voient même pas la différence, finalement, c'est ça qui est important. Donc vraiment, le fait de tout de suite... ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir... En fait, des fois, les gens ne vont pas vers l'alimentation végétale parce qu'il y a cette barrière-là. Et dès que cette barrière elle est franchie et qu'ils se régalent avec un plat salé ou un gâteau, tout de suite, c'est beaucoup plus simple parce que l'alimentation, enfin, se nourrir, c'est aussi lié aux émotions, au plaisir. Et donc, même si il y a les convictions derrière ou autre, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer à tel plat ou à tel gâteau parce que faut se faire plaisir dans la vie et que c'est lié à l'émotionnel, etc. Et du coup, si on arrive à faire bouger ça aussi, dès qu'on fait goûter des choses et que les gens se rendent compte que c'est aussi bon, tout de suite, c'est déjà, il y a un pas hyper important qui est franchi. Après, il faut aussi aider à apprendre aux gens à cuisiner parce que il y a des ingrédients qui sont différents, des techniques qui sont différentes, notamment pour la pâtisserie. Donc c'est important aussi de pouvoir apprendre ça aux gens, mais déjà quand ils voient que c'est tout aussi bon, c'est génial, c'est super bon, on digère mieux, etc. Là, il y a déjà quelque chose de gagné. Après, il faut réussir à pouvoir sensibiliser aussi à changer les habitudes, les ingrédients et apprendre à cuisiner ou à pâtisser différemment. Mais cette chose-là est très, très importante, le plaisir pour les gens, le plaisir de manger, peut-être encore plus des fois en France, parce que il y a y a un gros poids au niveau de la cuisine et de la pâtisserie. Et donc ce truc-là de privation ou de plaisir de manger, c'est vraiment une des choses qui a un impact très fort dès que les gens s'aperçoivent qu'en fait, non, on ne se prive pas du tout et on se régale tout autant. Ça, c'est très important, ça joue énormément, ouais.
Oui, là, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que toi. Nous, tout notre travail sur le site consiste à rendre normale notre alimentation. C'est pour ça qu'on a totalement végétalisé le patrimoine gastronomique français. Il n'y aura plus de prétexte de dire « Ah, j'ai perdu mon cassoulet, j'ai perdu ma choucroute. » Vous avez tout pour retrouver exactement les mêmes émotions. Parce que comme tu le soulignes, c'est souvent le poids des souvenirs, le poids de l'émotionnel du passé. On reproduit ce qu'on connaît. Et le français a beaucoup de mal à s'émanciper justement de ses réflexes. Donc nous, on essaye de casser ça en disant on peut garder absolument l'intégralité de notre patrimoine gastronomique en l'ayant végétalisé. Et surtout, n'oublions pas que cette viandardisation à outrance, c'est un phénomène très récent, ça a un demi-siècle, guère plus. Avant, on en mangeait très peu, et très peu souvent.
Eh bien, merci à vous. On arrive au moment des questions. Si vous aviez des questions à poser à nos intervenants.
Ici. Vas-y.
Alors, je prends le micro au vol et je vous demande, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait végétaliser l'alimentation à la cantine, dans les cantines scolaires ? Je demande comment on peut végétaliser l'alimentation dans les cantines scolaires ?
C'est un sujet. Tu m'entends là ? Ouais. C'est un sujet. Je ne connais pas vraiment les cantines. Mes filles sont très grandes depuis longtemps. Je ne sais plus ce qu'il faudrait faire. Évidemment, je le souhaite, mais si des gens ont des réponses là.
Alors, c'est une campagne de l'AVF qui s'appelle VG Cantine. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la loi a changé. Elle a changé un petit peu. Elle a changé de manière pas du tout suffisante. Depuis quelques années, en fait, il y a l'obligation pour les cantines de servir une fois par semaine un choix végétarien. Donc, c'est même pas végétarien pour tous, c'est un choix végétarien. On ne sait pas si la loi est bien appliquée. En fait, on est en train de mener une étude auprès de tous les collèges et lycées de France pour savoir si la loi est bien appliquée. Mais d'ores et déjà, ce qu'on comprend, est-ce que la loi est appliquée ? Mais en tout cas, on se rend compte que quand elle est appliquée, c'est pas top. C'est-à-dire que les gens ne sont pas bien formés. Les diététiciennes ont tendance à surcharger les plats en fromage et en œufs quand il n'y a pas de viande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus le savoir-faire pour créer d'autres plats qui ne soient pas, pour le coup, complètement déséquilibrés. On se rend compte que souvent, ce n'est pas très bien fait. C'est vécu comme quelque chose de punitif. Donc, ça nous pose beaucoup de questions. Et en fait, on a l'exemple du Portugal qui, avant la France, en fait, a fait passer une loi qui impose l'obligation à toutes les cantines publiques de proposer chaque jour un choix vegan. Donc, c'est beaucoup plus ambitieux que la France, parce que c'est donc chaque jour et vegan. Et en fait, il y avait un tel manque de formation et de savoir-faire que bah, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, l'association équivalente de l'AVF au Portugal, en ce moment, elle accompagne les villes pour que, justement, les personnels soient formés, qu'ils sachent comment faire. Et ensuite, elle récompense les villes qui appliquent bien la loi. Donc là aussi, c'est un changement culturel de grande ampleur. Et c'est compliqué parce que l'État français ne met pas du tout les moyens pour que les cantines soient végétalisées. Donc c'est le secteur associatif principalement qui accompagne la végétalisation des cantines. Donc c'est pas que l'AVF, hein, c'est d'autres associations qui travaillent là-dessus aussi. Mais on se rend bien compte que quand c'est des petites associations qui dépendent des dons et adhésions qui végétalisent les cantines françaises, on a vraiment un immense décalage avec ce qui serait nécessaire. Voilà, j'ai pas de réponse. Ce que j'ai quand même envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de métropoles et de villes qui, pour le coup, sont dans une démarche volontaire, c'est-à-dire que c'est pas l'État qui le leur impose, c'est pas l'État qui les forme, mais il y a beaucoup de villes, et notamment de villes écologistes comme Lyon ou Grenoble par exemple, qui avancent beaucoup dans ce chemin, et Tours probablement aussi.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ?
J'ai lu votre livre et... J'ai lu dans votre livre à propos de l'alimentation cellulaire. Est-ce que ça peut être une transition ou ça peut être quelque chose de définitif pour les irréductibles, ne serait-ce que de la viande ?
Bah c'est une... Oups, alors là ça marche plus. Ah si, c'est bon. C'est une très bonne question. Donc l'agriculture cellulaire, en fait, c'est le fait de produire de la viande sans passer par les animaux, en gros en cultivant des cellules. Franchement, je ne sais pas, mais je pense que dans la situation dans laquelle on est, il faut explorer toutes les pistes. À mon avis, ça peut être une piste parmi d'autres, et pourquoi pas, en fait. Voilà. Et souvent, les avocats de l'agriculture cellulaire, ils disent, bah, par exemple, je ne sais pas moi, en Chine ou aux États-Unis, les gens sont tellement pas sensibles qu'en fait, ce sera impossible de les faire changer à temps pour éviter une crise climatique catastrophique. Donc les gens aiment manger du burger, bah autant leur servir un burger, ils verront pas la différence et ce sera à base de culture cellulaire. Maintenant, je pense qu'on manque quand même de recul sur l'impact écologique, sur la faisabilité. Donc tout ça, c'est compliqué. En tout cas, voilà, ça me semble pas absurde et il me semble que c'est une piste parmi d'autres qui doit être explorée.
Jérémy, on prend une dernière question. Ok, une dernière question. C'est votre chance maintenant ou plus tard, en fait.
Je vais me tourner vers le public. Moi, j'aimerais savoir, quand on se destine au métier de bouche, quand on veut faire de la cuisine, de l'alimentation, son métier, où est-ce qu'on peut se former et apprendre à cuisiner bien et de façon savoureuse l'alimentation végétalienne ? Parce que vous expliquiez que bah, c'est pas toujours très bon, peut-être, ce qu'on sert dans les cantines. Et du coup... Voilà, est-ce que dans les CFA ou des choses comme ça, il y a des réflexions qui sont menées pour qu'on puisse apprendre à cuisiner bien ces cuisines-là ?
Alors, c'est au niveau de la formation professionnelle en cuisine végétale, c'est encore vraiment assez pauvre. Alors, il y a des formations, il y a quelques formations privées en cuisine ou en pâtisserie végétale. Qui sont des formations indépendantes, mais il n'y en a pas énormément. Et après, dans tout ce qui est CFA ou CAP, etc., je ne connais pas beaucoup ce milieu-là, mais dans le peu que je connais, je sais qu'il y a des petites choses qui commencent à être évoquées, mais c'est vraiment très très pauvre pour le moment. Et en fait, c'est une des choses qui est assez problématique parce que là c'est vraiment maintenant que se pose la question du futur de l'alimentation et de la végétalisation. Et donc si ceux qui apprennent maintenant à cuisiner s'y passent tout ce qui est lié à l'alimentation végétale, c'est aussi pour ça qu'après dans les restaurants restaurant, on n'a pas beaucoup de choix vegan, ou alors c'est pas hyper bien cuisiné ou pas très équilibré. Et du coup, ça aide pas non plus à attirer les gens qui sont pas vegan mais qui auraient envie de tester si c'est pas très bien cuisiné. Du coup, ça rend aussi les choses plus difficiles. Les gens se disent bon bah c'est compliqué d'être vegan parce qu'au restaurant c'est compliqué. Enfin voilà, au niveau des restaurants, je trouve que c'est encore très très timide. Et tout ce qui est, alors je sais que j'ai fait deux interventions dans des lycées où voilà il y avait eu la volonté, mais c'est parce que la direction de ce lycée là était ouverte à la question et donc ils avaient envie de faire des choses liées au végétal. Mais c'est vraiment, pour le moment, c'est assez pauvre, je trouve, là-dessus. Et c'est une des choses qui devrait être travaillée aussi, parce que en fait tout ce qui est même si les restaurants c'est pas la majeure partie de ce qu'on mange, c'est quand même il y a plein de pays où c'est tout à fait normal d'avoir au minimum une option végane et ça pose aucun souci. Et en France, c'est vrai que c'est très très compliqué encore. Et au niveau de l'apprentissage professionnel, c'est pour l'instant pas très très développé. Donc ce serait un axe à vraiment faire évoluer, je pense.